Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qu'on croit connaître par cœur, celle de l'eau. Ça semble simple, hein, un geste du quotidien, mais en Aveyron, derrière le simple robinet, il se cache des siècles de batailles, de l'ingénierie romaine, des œuvres d'art.
Et même des débats municipaux absolument passionnés.
Exactement. Et pour explorer tout ça, on s'appuie sur une source formidable, le bulletin numéro 67 du Carto Club Aveyronnais.
Ce qui est génial avec ce document, c'est qu'il raconte cette histoire à travers des cartes postales anciennes. Ce sont de vraies capsules temporelles.
C'est ça qui est passionnant. On a tendance à voir les cartes postales comme des souvenirs un peu désuets, mais le Carto Club Aveyronnais nous montre que ce sont de véritables archives. Elles documentent des infrastructures qui ont disparu, des modes de vie, des transitions. C'est de la micro-histoire visuelle, en fait.
Exactement. Alors, notre exploration va se faire en trois temps, en changeant d'échelle à chaque fois. On va d'abord s'intéresser aux puits, aux fontaines, le cœur de la vie d'autrefois. Ensuite, on prendra de la hauteur avec un ouvrage titanesque, l'aqueduc antique de Vorse. Et pour finir, on va zoomer.
Oui, on va zoomer sur un village, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, pour comprendre le combat que ça a été l'arrivée de l'eau courante. Et il faut d'ailleurs saluer le travail de Guy Mazard, qui est non seulement l'auteur de cet article, mais aussi le rédacteur en chef et le maquettiste de tout le bulletin. Un vrai travail d'orfèvre. Commençons par la base alors, le puits. Le bulletin le définit très simplement, c'est un terrassement vertical pour atteindre une nappe phréatique, la solution la plus ancienne, la plus directe pour avoir de l'eau, quoi. Et les cartes postales de Rodez nous montrent que simple ne veut pas dire
Même.
simpliste.
Ah non, loin de là.
On découvre des puits qui sont de véritables bijoux. Celui de l'hôtel Molinier, qui date du XVe siècle, il est incroyable. Sa margelle est entièrement sculptée avec des bourdons, des coquilles.
Les symboles des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça nous dit que ce puits n'était pas juste un point d'eau. C'était un marqueur social et même spirituel. Une façon pour le propriétaire de l'hôtel d'afficher son statut, sa piété. On est loin du simple trou dans le sol.
C'est sûr. Et il y a aussi le vieux puits de l'ancien évêché, plus sobre, mais qui nous rappelle que chaque grande institution, chaque communauté, devait assurer sa propre autonomie en eau.
Exactement. Et puis, au milieu du 19e siècle, il se passe quelque chose de radical. Le bulletin cite une date, 1858. Le conseil municipal de Rodez décide de fermer 17 puits publics, d'un coup. Ce n'est pas une transition en douceur, ça. C'est une rupture.
C'est une rupture, oui.
Et la raison, c'est qu'ils sont devenus obsolètes. C'est un moment de bascule fascinant. Une technologie millénaire, le puits, est rendue inutile presque du jour au lendemain par une infrastructure centralisée et bien plus performante.
L'aqueduc de Vorse.
L'aqueduc de Vorse, qui amène l'eau en abondance. C'est un peu l'équivalent du smartphone qui a rendu inutiles nos GPS, nos appareils photocompacts. C'est une disruption technologique, comme on dirait aujourd'hui.
C'est une excellente analogie. Ça documente vraiment le passage d'une gestion de l'eau décentralisée à un service public. Mais ça, c'est pour la ville. Dans les campagnes, à l'époque, ça ne devait pas être le même luxe.
Ah non, le contraste est saisissant. Le bulletin souligne d'ailleurs que les cartes postales de puits ruraux sont très, très rares.
Et pourquoi?
La raison est un peu triste, en fait. Une fois qu'ils ne servaient plus, on les a comblés. C'était un objet purement utilitaire, alors on récupérait la place sans état d'âme. Heureusement, quelques images ont survécu, comme cette carte postale, l'Aveyron pittoresque, au puits du village, vers 1910. On y voit des femmes autour d'un puits protégé, avec un treuil manuel, un touré. On sent que c'est un lieu de vie.
De sociabilité même.
De travail, de sociabilité, oui.
Le document montre aussi qu'il y avait une ingéniosité folle dans les campagnes, des systèmes adaptés à chaque situation.
Absolument, il n'y a pas un type de puits, mais des dizaines de solutions. Le bulletin en cite plusieurs. Le puits intérieur, par exemple, reconstitué au musée de Pradinas. Il était directement dans l'hostal, la grande pièce à vivre.
Ah oui, donc pas besoin de sortir l'hiver pour aller chercher de l'eau.
Imaginez le confort. À l'Odergues, une photo montre une pompe à godets, un mécanisme déjà plus complexe. Mais le plus génial, pour moi, c'est le système du Causse Noire, ce plateau calcaire où l'eau est si rare.
Le puits cisterne impluvium. Rien que le nom, c'est une promesse.
Et le système est à la hauteur. En gros, c'est un toit de lauzes, ces grandes pierres plates, qui est conçu avec une pente spéciale pour récupérer la moindre goutte d'eau de pluie. L'eau est ensuite canalisée vers une citerne souterraine. C'est l'ancêtre de nos récupérateurs d'eau de pluie, une solution parfaitement écologique, du pur génie humain.
Du puits, on passe logiquement à la fontaine. Et là, on sent qu'on franchit une nouvelle étape. L'eau n'est plus seulement une ressource qu'on va chercher en profondeur, elle jaillit, elle est mise en scène.
C'est exactement ça. La fontaine, c'est le captage d'une source. Mais très vite, l'utilitaire rencontre l'esthétique. L'eau devient un prétexte à l'art, à l'aménagement urbain.
Et le bulletin s'arrête sur un mot local magnifique pour ça, meugrifoule. J'ai été fascinée par ce mot. Ça ne sonne pas du tout technique. Il y a une poésie là-dedans. Ça vient d'où?
Ça vient de l'occitan « griffoule », qui désigne le bec verseur. Et ce bec était très souvent sculpté en forme de griffon, cet animal mythologique. Par extension, le mot « griffoule » a fini par désigner la fontaine tout entière.
C'est un bel exemple de comment un détail peut donner son nom à tout l'objet. Mais l'exemple de Nocelle est terrible. Le bulletin montre deux cartes postales de la place du Griffoul. Sur la première, on voit cette petite fontaine au cœur de la place. 50 ans plus tard, sur la seconde,
Disparu.
elle a disparu. À la place, il y a une banque. C'est le symbole d'un changement d'époque, de priorité, quoi.
Une histoire en deux images, en effet. Mais à côté de ces griffoules de village, il y a les grandes fontaines monumentales. De vraies déclarations de puissance. Celle de Villefranche de Rouergue du XIVe siècle est un chef-d'œuvre. Gothique, avec ses deux bassins, ses mascarons qui crachent l'eau. Elle est au centre de la place. C'est le cœur battant de la cité.
Et au XIXe siècle, à Rodez, c'est une explosion artistique autour de l'eau. On sent que la ville veut célébrer son arrivée en grande pompe. Il y a la statue de Samson par Raymond Guérard.
Qui a fait scandale à l'époque pour sa nudité, d'ailleurs.
Oui, et surtout, il y a la naïade de Vorse, du sculpteur Denis Puiche.
Et cette naïade est essentielle. Ce n'est pas qu'une œuvre d'art, c'est un monument de gratitude. Elle rend hommage à un bienfaiteur, M. Galli, qui a financé une partie des travaux. Et surtout, elle célèbre l'arrivée des eaux de Vorse. Encore ce nom, c'est le fil rouge de notre histoire. Justement, cette eau de Vorse qui irrigue Rodez, qui permet de fermer les vieux puits, elle ne sort pas de nulle part. Et ça nous amène à notre deuxième partie, à une prouesse d'ingénierie qui traverse les âges, l'aqueduc de Vorse. Là, on change complètement d'échelle. On passe de la fontaine du village à un ouvrage de 28 km. L'article de Philippe Gruat, le chef du service d'archéologie de l'Aveyron, est passionnant. Il nous décrit cet aqueduc gallo-romain, construit entre la fin du 1er et le début du 2e siècle, pour alimenter Segodunum, l'antique Rodez.
Ce qui est incroyable, c'est le pragmatisme des ingénieurs romains. L'article explique que le tracé est très sinueux. On aurait pu imaginer des ponts aqueducs spectaculaires, comme le pont du Garde, mais non, ils ont préféré suivre les courbes de niveau du terrain. Pourquoi ce choix? Pour une raison simple, l'économie. Construire des ouvrages d'art, des ponts, des tunnels, ça coûte une fortune. En allongeant le parcours, mais en collant relief, ils ont minimisé les constructions lourdes. C'est une approche incroyablement moderne.
Mais ce qui rend cet aqueduc unique, c'est qu'il a eu deux vies.
C'est-à-dire?
Il a fonctionné à l'époque romaine, puis, avec la chute de l'Empire, il a été abandonné, oublié. Il est devenu une sorte de légende locale. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'il soit redécouvert.
Et le bulletin rend hommage aux deux figures clés de cette renaissance, le député Hippolyte de Monseigneur qui l'identifie en 1840 et surtout un homme de terrain, Bernard Romain, qui va piloter la restauration à partir de 1853. Et comment on restaure un aqueduc romain en 1850? On ne se contente pas de le nettoyer, j'imagine.
Non. Et la solution qu'ils ont trouvée est d'une grande intelligence. Plutôt que de réparer le conduit romain, qui était très abîmé, ils ont fait quelque chose d'inédit. En 1856, ils ont moulé un nouvel aqueduc en ciment et l'ont installé directement à l'intérieur de l'ancien.
Ah, d'accord.
Ils ont utilisé la structure romaine comme un coffrage en posant leur nouvelle conduite sur le radier, le fond de l'ouvrage antique. C'est du recyclage patrimonial et technique avant l'heure.
L'article donne des détails techniques sur la construction romaine qui laisse rêveur.
C'est de la haute précision. La hauteur sous voûte était de 1,40 m pour qu'un homme puisse passer pour l'entretien. L'étanchéité était assurée par un mortier de tuyaux, un mélange de chaux et de briques pilées, reconnaissable à sa couleur rose. Et le plus fou, c'est la pente. En moyenne, 1,6 mm par mètre.
C'est infime.
Gravité sur 28 km. C'est du génie civil pur.
Et c'est donc cette remise en service, cet héritage romain réactivé au XIXe siècle, qui a permis l'inauguration de la Naïade de Vorse en 1882. La boucle est bouclée. On passe d'un projet impérial romain à une ambition municipale moderne. Mais tout ça, ce sont des grands projets. Qu'est-ce que ça signifie concrètement l'arrivée de l'eau à l'échelle d'un simple village?
C'est là que le troisième article, celui de Guy Mazard sur Saint-Cyprien sur Dourdou, nous offre une perspective totalement différente. On quitte le gigantisme romain pour entrer dans la salle du conseil municipal d'un petit village au début du XXe siècle. Et on découvre que l'eau courante n'a rien eu d'une évidence. Ça a été un combat.
Un vrai combat, oui. L'article s'appuie sur les procès-verbaux des délibérations. Au début du siècle, à Saint-Cyprien, on en est encore au puits privé et à la fontaine des sœurs. Mais ça ne suffit plus. L'aventure commence en 1909. Oui, en 1909, première demande officielle. Le motif est clair, il est cité. L'eau des puits est de mauvaise qualité et insuffisante. Le diagnostic est posé. On pourrait croire que c'est parti, mais pas du tout. C'est le début d'une saga qui va durer plus de 30 ans. C'est incroyable, entre 1911 et 1937, ce n'est qu'une succession d'études sans lendemain, de projets avortés, de retards à cause de la Première Guerre mondiale et de débats sans fin sur le coût jugé démesuré.
Et l'ironie continue. En 1939, le projet est enfin classé urgent. On se dit, ça y est, c'est la bonne. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et tout est de nouveau suspendu. C'est fou, mais le projet sera finalement réalisé entre 1940 et 1944.
En pleine occupation. Mais pourquoi a-t-il fallu autant de temps, 30 ans, pour quelque chose qui semble si fondamental ? Guy Mazars l'explique très bien. La première raison est financière. Pour un conseil municipal de l'époque composé surtout d'agriculteurs, il y avait une autre priorité, bien plus vitale pour l'économie locale, l'entretien des chemins vicinaux.
Ah, bien sûr.
Un chemin en bon état, c'était la garantie de pouvoir acheminer ses récoltes. L'eau pour le confort domestique, bah, ça passait après. C'est un arbitrage difficile à imaginer aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a eu l'impact des deux guerres. Et quand l'eau arrive enfin, ça a dû être une révolution pour les habitants. Une révolution silencieuse mais profonde. L'article chiffre cette transformation. 185 robinets sont installés dans les foyers. Fini la corvée du seau au puits, surtout pour les femmes. La commune se dote aussi d'un lavoir public et de deux bornes fontaines en fonte, de la célèbre marque Bayard de Lyon, précise le bulletin, un gage de qualité. Et il y a cette anecdote personnelle de Guy Mazard qui est absolument délicieuse et qui humanise tout ce récit.
C'est une touche magnifique, oui. Il se souvient du robinet de son enfance, dans la cuisine. Et il raconte que si on le tournait un peu trop fort, il se dévissait complètement et un geyser jaillissait jusqu'au plafond. C'est ce genre de petit souvenir qui nous fait vraiment comprendre ce que l'arrivée de l'eau sous pression a pu représenter de nouveau, de presque magique et parfois d'un peu sauvage.
La fin de l'article est plus douce amère cependant. Il constate que ces infrastructures si difficiles à obtenir ont aujourd'hui disparu.
Oui, c'est une réflexion sur le cycle de vie des technologies. Le lavoir a été remplacé par une salle des fêtes, logique avec l'arrivée de la machine à laver. Les bornes fontaines ont été enlevées. Et surtout, la gestion de l'eau, cette grande conquête municipale, est aujourd'hui confiée à des opérateurs privés. C'est une autre histoire, une autre transition.
Quand on met tout ça bout à bout, grâce à ce bulletin du Cartoclub Aïronnais, on a vraiment voyagé. On a vu la vision à long terme des Romains, la célébration civique du XIXe siècle, et on a ressenti la ténacité d'un conseil municipal du XXe pour amener un simple robinet dans chaque foyer.
Et ce qui est remarquable, c'est que cette histoire nous est rendue vivante, presque tangible, grâce à des objets aussi modestes que des cartes postales. Elles nous permettent de voir ce qui a disparu, de comprendre l'évolution d'une place de village. C'est un travail de mémoire locale qui a une portée universelle.
Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Oui, une pensée qui prolonge tout ça. Ces sources nous montrent que chaque époque a imprimé sa marque dans le paysage de l'eau. Les Romains ont bâti pour l'éternité, pour la démonstration de puissance. Le XIXe siècle a célébré l'eau en la transformant en œuvre d'art. Le XXe siècle s'est battu pour la démocratiser. Alors la question qui se pose, c'est face aux défis d'aujourd'hui, le changement climatique, la raréfaction de la ressource, quelle trace notre époque laissera-t-elle dans cette longue histoire de l'eau ?